à tous et une bien belle année qui commence aujourd'hui en littérature avec dans la catégorie essai la philosophe belge Isabelle Stengers face à la débâcle du monde, comment refaire sens commun. Elle nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, un roman et un romancier, chroniqueur à Libération, auteur de plusieurs livres déjà, dont En enfance et ce qu'aimer veut dire, Mathieu Lindon est notre invité à l'occasion de la sortie de Moi, qui que je sois, chez POL. Il est avec nous à écouter jusqu'à midi et demi.
Grande table. Olivia Gesbert.
Le roman s'ouvre avec une petite héroïne des bas quartiers, une odeur nauséabonde qui ne veut pas se laver. Et il se poursuit entre activité et inactivité, puissance et impuissance, utilité et inutilité, entre rêves et cauchemars. C'est un conte de fées désabusé, une réflexion sur la fonction du sexe, du langage et de la littérature. Bonjour Mathieu Lindon.
Bonjour.
Pardonnez cette voix pour vous accueillir, mais plaisir quand même d'être là avec vous aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de faire d'une odeur votre fil conducteur, celui de cette première partie du livre, qui est tissée de mille histoires,
hein ? Je ne sais pas. Je dois dire que c'est la dernière idée qui aurait pu me venir, parce que c'est vraiment pas mon fort. Je suis enrhumé depuis que j'ai 2 ans. Toute ma vie, j'ai fait toutes les opérations possibles. Je reste toujours enrhumé. L'odorat n'est vraiment pas le sens où je suis le plus compétent. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est venu comme ça et c'était encore beaucoup plus net parce que il y avait une première partie au livre qui en avait alors 5, puisqu'il n'y en a plus que 4, qui était entièrement consacrée et que j'ai en définitive supprimée. Mais le fait est que c'est resté comme ça. Je sais pas, je pense que l'odeur a un sens concret, un sens abstrait, enfin un sens très concret et un sens très symbolique, et que j'ai voulu malgré tout rester au sens concret et de voir de quoi... Comment le sens que l'on peut dire symbolique est complètement intégré au sens concret.
Elle veut rester ce qu'elle est, cette odeur. Elle n'a pas forcément envie d'évoluer. Il y a quelque chose d'identitaire, hein, même dans sa nature même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la vie, les odeurs sont partout. On parle parfois de parfum de manière plus élégante, mais le parfum est aussi une odeur, comme le bruit est aussi un son. Hein. Il y a les plats qu'on cuisine, il y a l'entrée de l'immeuble dans lequel on vit, qui ont une odeur. Il y a aussi la mort qui a une odeur, hein, Mathieu Lindon. Et le plaisir, et la vie. Est-ce qu'ils ont des odeurs aussi pour vous ?
Oui, mais le livre souffre sur une odeur nauséabonde. C'est pour ça que ça me plaît que vous disiez l'aspect identitaire, parce que une odeur nauséabonde qui est héroïne du premier des contes de fées de ma première partie, et qui en effet aurait le sentiment de perdre son idée en cessant d'être nauséabonde, puisque elle ne se ressent pas malgré tout nauséabonde. Est-ce que oui, le plaisir a une odeur, je crois que tout le monde le sent, si l'on peut dire, puisqu'il s'avère d'ailleurs que le plaisir peut faire naître entre des amants des odeurs qu'on n'imaginait pas et qui peuvent améliorer le plaisir ou le déprécier.
Et la vie, est-ce qu'elle a une odeur aussi ?
La vie, oui, là je sais pas si j'ai une compétence particulière pour en parler, encore que le reste non plus. Mais oui, la vie, on lui donne... La vie, elle prend une odeur, assurément, oui. Quelquefois, on n'a pas un très bon rapport à la sienne propre, non ? On la sent pas très bien. Et à d'autres moments, elle sent bon, oui.
Et la liberté, et les contes de fées, est-ce qu'ils ont une odeur ? C'est une réflexion que vous menez dans ce livre, Mathieu Lindon, une réflexion aussi humoristique sur ce genre littéraire, hein, sur le rapport que l'on peut avoir avec cette imagination, avec ses inventions, avec le monde qui s'annonce, Mathieu Lindon. Est-ce que vous pensez vraiment que le futur, tel que vous le définissez, est un temps de contes de fées ?
Il faut dire que, si je peux me permettre de revenir, mon livre est constitué de 4 parties dont je peux donner les titres juste pour qu'on comprenne mieux peut-être les questions que vous me posez. La première partie s'appelle « Contes de fées et autres romans d'amour ». C'est dans celle-ci que le futur devient un temps de contes de fées, puisque précisément il est futur et donc on n'en connaît rien et quelque chose de merveilleux s'y attache. La deuxième partie s'appelle « L'enquête » et relève d'un roman policier, d'un genre, me semble-t-il, assez particulier. La troisième partie s'appelle « Faire de son cul une œuvre d'art » et relève du roman érotique, si ce n'est pornographique, mais il me semble aussi d'un genre assez particulier. La quatrième partie s'appelle « Les logiciens » et fait tenir avec une logique particulière, il me semble, tout le livre ensemble. Le futur a cette possibilité d'être un conte de fées. Tout le monde a cet espoir et tout le monde a le désespoir... quand c'est pas le cas, enfin, quand le futur à la rue de bœuf devient une catastrophe, oui. Mais dans la mesure où il est opposé au passé, où il est immaîtrisable, où on ne sait pas ce qu'il en adviendra, oui, il a quelque chose du conte de fées, parce que là, il se trouve que dans cette partie du livre, la grammaire a un rôle important comme un personnage et donc de cette façon-là le futur relève à mon sens oui du conte de fées, il peut en relever.
Et vous écrivez le futur c'est ce pays où tout peut changer mais dont on ne passe jamais la frontière pour de vrai. C'est assez pessimiste comme vision.
Le futur par définition, je crois pas que ça ce soit pessimiste. Le futur, par définition, est comme un horizon, donc on l'atteint jamais, puisqu'il recule quand on avance. Donc, on peut pas le toucher. On n'imagine pas un roi Midas dont tout ce qu'il touche deviendrait futur. C'est impossible. On peut imaginer que ça devienne passé, mais le futur, oui, c'est au titre qu'il est un horizon mobile, inaccessible, qu'il est futur. Il ne cesse d'être futur. C'est une mue permanente, non?
Vous l'envisagez comment, vous, votre futur?
Je suis assez âgé maintenant, je me semble prudent de ne pas trop m'en préoccuper. Sinon, un certain pessimisme certainement me gagnerait. Mais
Et le sexe, et le corps, Mathieu Lindon, dont il est aussi beaucoup question dans cette première partie
et dans d'autres,
livre.
Oui.
Hein, est-ce que le sexe, le corps sont pour vous des territoires du présent? Je vous propose d'écouter les mots de quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez bien connu, Michel Foucault.
Faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité, entre les mains de l'autre, sous les doigts de l'autre qui vous parcourt. Toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt. Et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici.
Le corps est ici et maintenant. Il avait raison. Une fois de plus, Michel Foucault.
Oui, j'aurais tendance à penser d'une façon générale, oui, très souvent, qu'il avait raison, mais ça m'émeut toujours d'entendre sa voix, et ça m'émeut, oui. Mais je parle aussi du sexe dans le livre, je parle du sexe faisant l'amour, je parle de la jouissance, et j'espère d'une façon correcte, c'est un sujet assez délicat à rendre par écrit, et je parle aussi, et ça m'amuse, il y a un des contes de fées et autres romans d'amour. Donc, commence par la phrase « Mon sexe m'est inutile » souvent, parce que il me semble que c'est aussi une particularité sexuelle, en effet, d'être... le sexe très souvent est inutilisé dans cette partie de son activité, ce qui est ce que vous citiez au début, cette inactivité est souvent passée sous silence. Ça m'a amusé de m'intéresser à l'inactivité sexuelle du membre lui-même.
Une inutilité chronique, parfois. On aurait pu être créé d'une manière plus efficace, écrivez-vous, non sans humour, dans une entreprise. Ça ne se passerait jamais d'engager un membre à plein temps pour un boulot saisonnier. C'est vrai qu'il n'est pas toujours utilisé à bon escient ou en permanence, ce membre.
En permanence, oui, il faudrait une santé qu'on ne peut prêter à personne, je crois.
Ça veut dire quoi, parler de manière correcte du sexe? Comment vous l'entendez?
C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que je viens de dire. Oui. Correct, c'est pas au sens par rapport à l'incorrection, enfin, ou au convenable. Je veux dire correct, ça veut dire juste. Comme.
Et c'est difficile d'en parler de manière juste?
Oui, c'est un peu. Comment dirais-je? Je crois que mon chapitre, ma partie. Faire de son cul une œuvre d'art se termine par ces mots d'essayer de faire de son cul une œuvre d'art pour que la vie soit plus juste, c'est-à-dire plus exacte. L'exactitude est très délicate à atteindre, il me semble, dans ces matières, dans la façon de rendre compte du sexe, rendre compte de l'activité sexuelle, rendre compte de la jouissance même. Je sais pas, je me suis attaqué à ça, j'espère que c'est pas une catastrophe, mais c'est, comment dirais-je, il y a des gens pour dire que c'est, enfin je sais pas, c'est très délicat, non? Je sais que pour moi, les textes que j'ai lus dans ma vie qui rendent le mieux compte de la jouissance, c'est drôle que j'arrive à parler de ça, j'imaginais pas du tout. Pour moi, le texte que j'ai lu de toute ma vie qui rend le mieux compte de la jouissance, c'est dans les Mémoires de Saint-Simon, quand les bâtards de Louis XIV que Saint-Simon déteste sont enfin, après la mort de Louis XIV, le duc du Maine et le comte de Provence sont dégradés. Et il est tellement content de ça qu'il en parle d'une manière qui, pour moi, est ce que j'ai lu de toute ma vie qui décrit le mieux la jouissance.
Parce qu'elle est si bien décrite, si bien racontée qu'on la vit ou on la ressent avec lui.
Il est tellement content. Et c'est quand même, on a déjà lu 8000 pages avant d'en arriver là, et lui a écrit 8000 pages, et c'est ça qui est, rien de mieux ne pouvait lui arriver, on la sent, et il y a une jouissance de lecture qui me semble extraordinaire.
Comme quoi on peut écrire sur le sexe, on peut parler du sexe sans être obscène?
Ça, je crois, même comme quoi, et un peu délicat, vu que Saint-Simon, c'était pas du tout de ça qu'il parlait. Mais oui, je pense, enfin.
J'en revenais à vous.
Oui, j'ai bien compris.
Et au cul comme une œuvre d'art.
Mais je crois qu'il n'y a aucun rapport. Là, c'est quelque chose de pure convention, non? J'en sais rien de ce qu'il y a des activités qui sont vulgaires ou répugnante par nature et que en rendre compte, quelle que soit l'écriture qu'on ait, le soi, non, je crois pas. Oui, bien sûr que le sexe, comment dire, certaines personnes y trouvent du plaisir quand même.
Dans ce livre en quatre parties, Mathieu Lindon, qui aurait pu en faire cinq, puisque visiblement vous avez retiré une partie entière.
Mais que j'ai, que vous avez, que j'ai saupoudré un peu ici.
Que vous avez replacé.
Oui, dont j'ai repris des bouts.
Dans ce livre, vous ouvrez effectivement et travaillez autour, c'est une sorte de variation autour de ce genre littéraire aussi, qu'est le conte de fées, et vous l'évoquiez ensuite. Vous utilisez un peu le même procédé, vous réfléchissez autour du genre policier, un crime, une victime, une enquête, qui a tué. Les romans policiers doivent leur prospérité à cette vivacité d'esprit, écrivez-vous, cette volonté de défricher à bon compte l'inconnu. Puis cette troisième partie, faire de son cul une œuvre d'art. Et enfin, les logiciens, qui plairaient beaucoup à notre camarade Charles Danzig, l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la littérature mondiale, et qui est une partie faite de citations et de références littéraires déguisé. On voit que vous entretenez, et pas simplement avec Saint-Simon, une intimité littéraire avec beaucoup d'auteurs, de grands auteurs qu'on retrouve notamment dans cette dernière partie. Il y avait l'envie de leur rendre hommage.
Comme j'avais dit pour ce qu'aimait veut dire, à propos de Michel Foucault, pour en parler, rendre hommage, non, qui suis-je pour, je disais, qui suis-je pour rendre hommage à Michel Foucault? Ses propres livres lui rendent plus hommage que je ne saurais faire moi. Donc, les grands auteurs, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont leurs propres textes pour qu'on leur rende hommage. Mais c'est vrai que la littérature est une partie intégrante de ma vie, peut-être plus que pour beaucoup de gens. Mon père était directeur des éditions de Minuit, ce qui fait que Beckett, Duras, Rob Grier, Claude Simon, la littérature m'a été, et les écrivains m'ont été très familiers dès mon plus jeune âge, que je suis resté dans cet univers, que ce titre, moi, qui que je sois, qui peut sembler étrange pour moi, d'une certaine manière, il représente aussi non seulement quelque chose de la littérature, mais la littérature même, si l'on peut dire, c'est le insensé qui croit que je ne suis pas toi de Victor Hugo en tête des contemplations, et pourtant c'est à propos de la mort de sa fille, et il trouve qu'il n'y a aucun deuil semblable à celui-là, et pourtant il est prêt à le partager avec tout le monde comme si tout le monde le connaissait. C'est le Madame Bovary, c'est moi prêté à Flaubert. Oui, c'est, je pense que j'ai voulu faire quelque chose de qui rend hommage à la littérature. Je vous dis encore, c'est ridicule, la littérature n'a pas besoin de moi pour avoir des hommages, mais qui s'attache au plus près de la littérature, à quelque chose qui soit purement la littérature. Il me semble que je fais un roman policier qui ne peut pas être un film, que je fais un roman pornographique qui ne relève pas de l'image non plus, et que je reste dans le domaine de la littérature à la fois de la manière la plus stricte, mais que c'est peut-être la manière la plus généreuse, au sens où c'est là que c'est le plus facile de se l'approprier.
Vous avez dit, je suis le fils de l'éditeur Jérôme Lindon. J'ai aussi grandi avec tous ces grands auteurs autour de moi. Lui qui a dirigé pendant plus de 50 ans les éditions de Minuit. Cette complicité père-fils, est-ce que vous la retrouvez aussi sur votre rapport aux mots, à la fois sur votre manière de jouer avec la langue, mais aussi de pouvoir, comme on le voit dans ce texte, dans ce livre, être très irrévérencieux par rapport à ce langage?
Je suis toujours mal à l'aise avec ce genre de choses pour dire, ça aurait été à mon père de le dire. C'est pas moi qui vais m'approprier son opinion qu'il n'a pas donnée, j'espère. Enfin, j'ai évidemment beaucoup de respect pour tout le travail qu'il a fait. Oui, je pense que, en tout cas, ça m'a donné, ça aurait pu aussi bien faire le contraire, mais je pense que ça m'a donné une grande liberté. Et que le respect que j'ai pour la littérature est tel que l'irrespect est tout à fait possible.
Ça, c'est ce qu'il vous a appris.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il m'a appris, c'est ce que j'en ai tiré, en tout cas, moi, de ma vie.
Et vous, pourquoi vous y êtes allé en littérature?
Je ne sais pas.
Pourquoi vous avez besoin
d'écrire? C'est comme ça. Ouais. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'en tout cas, j'écrirais. Et ça s'est produit. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, non? C'est comme pourquoi vous aimez telle personne plutôt que telle autre. Je vous écoute.
Vous savez comment je vais m'en sortir? En musique.
Je suis un oiseau fond de l'océan qui vient de remonter à la surface et de découvrir la limite entre l'eau et l'air. Je me suis allongé sur la crête d'une vague et je suis arrivé sur la plage debout sur un château de sable criblé de souterrains humides. Et entre mon seau et ma pelle, entre mon joint et ma guitare, je me dis que le bonheur n'existe que dans l'amour fou. C'est vrai, on dit que les fous ont besoin d'amour, comme on dit que les chats ont besoin du lait. Mais que la vénérable assemblée veuille bien prêter son attention à nos humbles guitares, pénétrer dans notre modeste cerveau. Quand les vibrations latentes de l'agression deviendront palpables, nous pourrons faire ensemble, si vous le voulez bien, un voyage dans un pays, un voyage dans un monde que je crois meilleur, le monde de moi. Moi, moi, je suis beau, je suis bon, je suis intelligent. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous intelligents, vous êtes tous super bons quelque part. Quelque part, un enfant rêve de s'envoler avec son ballon rouge. Et quand le ballon s'échappe de ses mains, il pleure déjà la liberté. Je suis cet oiseau.
La grande table, votre grande table du lundi avec notre invité, l'écrivain romancier Mathieu Lindon, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. On peut pas dire roman, hein. Vraiment.
Si. Oui, je sais pas. En vérité, ça m'est égal.
En tout cas, on peut donner le titre. Moi, qui que je sois. Et il vient de paraître il y a 3 jours. C'est chez POL, bien sûr, Mathieu Lindon. Pourquoi ce titre? Comment on peut le comprendre ou l'expliquer? J'ai une hypothèse, dites-moi. Les contes de fées, on a toujours le sentiment que c'est un genre qui est particulièrement universel. Le roman policier aussi, que vous expérimentez à travers ce livre. Mais est-ce qu'en fait, parler de soi, c'est pas la manière ou la chose la plus universelle qui soit, justement, Mathieu Lindon?
Oui, mais d'une certaine manière, on peut pas dire que je parle tellement de moi personnellement dans ce livre. Le moi a un sens plus universel qui me dépasse tout à fait et qui dépasse ma propre existence. Oui, j'ai voulu parler de l'ensemble des genres littéraires. C'est ce que je vous disais pour que ça me semble une définition de la littérature de s'adresser à moi, qui que je sois, et que c'est d'une certaine manière, on peut dire que n'importe quel livre pourrait s'intituler comme ça. Et ça m'a amusé de trouver ce titre. Il me semble que l'explication réelle du titre, elle vient à la fin, dans la dernière partie, qui est la plus brève et qui raconte comment le livre tient ensemble, comment les choses sont liées. Et c'est comme une explication d'un roman policier où il suffirait pas de savoir le nom du coupable, mais où ce serait pas ça l'élément le plus intéressant. Et de fait, il me semble que dans les romans policiers, c'est pas ça le plus intéressant.
Mmh. Il y a quand même cette veine autobiographique qu'on retrouve dans ce livre, et qu'il était dans vos précédents, dans En enfance, dans Ce qu'aimer veut dire, dans Une vie pornographique, ou aussi dans Jour de libération, qui racontait cette période particulière dans la vie du quotidien pour lequel vous travaillez. Il y a une place pour l'autobiographie, ou peut-être pour l'autofiction. C'est le père de l'autofiction, Serge Dubrovski, qui avait cette jolie définition qui différenciait les deux en disant, dans mes livres, la matière est entièrement référencée, la manière est entièrement fictionnelle. Vous pourriez vous l'approprier, cette phrase, Mathieu Lindon?
Oui, à l'adverbe près, je crois que c'est pas entièrement, ni dans un sens ni dans l'autre, ni entièrement fictionnel, ni entièrement référentiel.
Moi, qui que je sois, Mathieu Lindon, votre nouveau livre vient de paraître chez POL. À l'instant, on vient d'écouter Pierre Vassilou. Je ne sais pas si c'est un auteur, compositeur qui a compté pour vous, Mathieu Lindon, mais à la question qui s'essuie là, hein, que lui avait posée en chantant, on vous répondra que c'était un grand et qu'il y a aujourd'hui une compilation qui lui rend hommage. Elle s'appelle En voyage, elle vient de sortir et on en a écouté un extrait. C'était L'oiseau. On va partir du côté des États-Unis maintenant pour rendre compte avec Henri Leblanc qui nous a rejoint de la 77e cérémonie des Golden Globes.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Bonjour Henri Leblanc.
Bonjour.
Elle s'est tenue hier, cette cérémonie à Beverly Hills. C'est, on le dit souvent, hein, les Golden Globes, c'est une sorte d'avant-goût des Oscars qui auront lieu dans un mois, le 17 février. Qu'est-ce qu'il en ressort ?
La fameuse antichambre des Oscars, elle était riche cette année. Principale tendance de cette édition, l'Association de la presse étrangère à Hollywood a récompensé des films diffusés de manière traditionnelle, alors que les productions Netflix, dont The Irishman de Martin Scorsese, ont plutôt été laissées sur le banc de touche. Seule Laura Dern, impressionnante avocate dans Marriage Story de Noah Baumbach, a été récompensée par un Golden Globe pour un second rôle. Cette tendance a été résumée en quelques mots par le grand gagnant de la soirée, Sam Mendes, qui a obtenu le Golden Globe du meilleur film dramatique et le prix du meilleur réalisateur pour son film 1917. Dans son discours de remerciement, il insiste sur l'importance de voir son film sur grand écran. Vous voyez à qui il s'adresse ? Extrait.
This is a huge thing for this movie. It opens in a week wide. It's difficult to make movies without big movie stars in the leads and get people to come and see it in a cinema. And I really hope this means that people will turn up and see it on a big screen for which it was intended. I want to say thank you to Christy
Wilson.
Le film
1917 en quasi plan séquence suit la course effrénée de deux soldats britanniques pour remettre un message et sauver des centaines de leurs compatriotes. 1917 sortira le 15 janvier sur les écrans français. Alors pour le reste du palmarès, Olivia, meilleure actrice pour Renée Zellweger dans le biopic sur Judy Garland. Sans surprise, Joaquin Phoenix obtient le Golden Globe du meilleur acteur pour Joker, film qui, rappelons-le, avait reçu le Lion d'or à Venise et qui a remporté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Dans la catégorie comédie, on retrouve Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. La réinterprétation par l'enfant terrible d'Hollywood du meurtre de Sharon Tate rafle 3 prix, meilleur film, meilleur scénario et surtout, ce qui nous fait très plaisir, meilleur second rôle pour Brad Pitt. En revanche, pas de miracle pour les Français Céline Sciamma et Lajli, c'est le déjà palmé Parasite de Bong Joon-ho qui obtient le Golden Globe de meilleur film étranger. Côté série, pas d'éclaircie à l'horizon non plus pour Netflix qui n'obtient que le prix de la meilleure actrice pour la formidable Olivia Colman dans The Crown. Les prix principaux ont été trustés par HBO, Amazon Prime et Hulu. Et enfin, on retiendra le discours très fort de Michelle Williams sur le droit à l'avortement lorsqu'elle a reçu un Golden Globe pour la mini-série Fausse Verdon qui a été diffusée sur Canal en septembre dernier. Elle a dit « Je suis reconnaissante d'avoir vécu à une époque où on a le choix parce qu'en tant que femme, que fille, il peut arriver des choses à notre corps qui ne relèvent pas de notre choix. » Un discours d'autant plus puissant que plusieurs États conservateurs des États-Unis ont récemment restreint le droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Merci beaucoup Henri Leblanc pour ce retour sur la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue cette nuit aux États-Unis. Un grand merci à vous Mathieu Lindon d'être venu ouvrir cette grande table littéraire, cette rentrée littéraire de janvier avec nous autour de la grande table. Ça marche plutôt dans ce sens-là. Oui. Vous qui aimez bien jouer avec les mots et là encore les interférer, changer les sens, tripatouiller la langue, vous me pardonnerez encore cette inexactitude. Moi, qui que je sois, vient de paraître chez POL et la grande table vous le recommande chaudement.